Alors, quelques minutes d'abord de présentation. Bonsoir à tous, d'abord. Et je vous remercie pour cette invitation. Et je tiens à saluer votre sens du pluralisme. C'est d'ailleurs la raison essentielle de ma présence. Parce que vous imaginez bien que je ne suis pas venue ici pour gagner des voix. Que même...
Mais vous avez tort.
Je ne crois pas. Je ne crois pas que j'y arriverai. Vous allez voir la suite. Vous allez être d'accord avec moi, pour une fois. Donc, simplement, bon, je sais que même chez les dirigeants socialistes, c'est devenu une habitude de faire des déclarations d'amour devant les parterres patronaux. Eh bien, je vous le dis, cette maladie n'a pas frappé les ouvrières. Et je tiens aussi à dire, ça ne vous surprendra pas, que je me sens tout à fait étrangère à vos préoccupations. Je ne parlerai pas, moi, de l'intérêt général. Et je ne parlerai pas au nom de l'entreprise. Parce qu'à chaque fois que l'on parle au nom de l'entreprise et de l'intérêt de l'entreprise, eh bien, et je crois que ce n'est pas un hasard, cet intérêt de l'entreprise se confond avec l'intérêt du patronat, des propriétaires, des actionnaires, jamais avec celui des ouvriers, des travailleurs et des salariés. L'intérêt de l'entreprise, c'est toujours, et j'ai entendu que vous pensiez aussi que cela allait dans le même sens pour le Conseil régional, c'est toujours de supprimer des emplois, de comprimer les salaires, les charges, d'aller vers plus de précarité pour les travailleurs, etc.
Je vais préciser ma question pour être assez court et bref, et je vais m'en donner bref. En dépensant moins de façon avec l'argent public pour le conseiller régional, est-ce qu'on ne libère pas un peu d'argent pour justement bien le consacrer à d'autres missions qui peuvent être des missions d'intérêt général, qui peuvent être des missions aussi en faveur des entreprises?
Alors, moi je ne crois tout simplement pas à ce discours et j'allais y venir, puisque dans la présentation, effectivement, l'axe que j'ai bien compris, il fallait libérer l'entreprise de cette pression fiscale, de façon y compris à ce qu'elle puisse davantage embaucher, parce que c'est le souci principal aujourd'hui du patronat. Je crois que ça, c'est un mensonge. Je crois que cette politique qui est menée depuis maintenant 20 ans, 30 ans, et qui consiste à dire qu'il faut baisser les charges des entreprises, qu'il faut diminuer le coût du travail, comme vous dites, pour pouvoir embaucher, eh bien cette politique-là, elle a été appliquée. Depuis maintenant 20 ans, elle est appliquée. Elle est appliquée par tous les gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Et qui, dans cette salle, peut me dire que cette politique a fait diminuer le chômage? Qui peut me dire qu'il y a moins de chômeurs depuis que les entreprises ont des crédits d'impôt, ont des rabais fiscaux, ont moins de cotisations sociales à payer? Qui peut me le dire? Aucun. Parce que la réalité, c'est que le chômage n'a fait que monter. Alors vous allez peut-être me dire que c'est plus compliqué que ça, que je n'ai pas tout compris aux lois de l'économie capitaliste, qu'il y a la concurrence internationale, etc. etc. Et juste pour conclure, bien justement, c'est bien pour ça que moi je dénonce l'ensemble de ce système économique, l'ensemble de ces lois, qui font effectivement que malgré votre envie formidable de créer des emplois, vous n'y arrivez pas. Voilà. Donc voilà le sens de ma candidature aux élections régionales, le sens de ma campagne, où je dirais que pour lutter contre le chômage, en fait, il faut lutter contre les suppressions d'emplois, contre les licenciements, il faut même les interdire, tout simplement, et qu'il faut non pas aller vers une augmentation du temps de travail, et qu'il faut au contraire diminuer le temps de travail et le répartir entre tous si on veut que chacun ait un emploi. Donc voilà, voyez mon programme que je défendrai, bien sûr, auprès des travailleurs qui ont l'intérêt immédiat à ce qu'il soit mis en place.
Emmanuel Cosse.
Et je vois M. Dassault, je le salue parce que finalement, quand on arrive, et nous en sommes tous heureux, à donner un destin international aux rafales, parce qu'il y a un engagement de la France, parce qu'il y a un engagement du président de la République, eh bien, en plus, cela retombe sur toute l'Île-de-France. Eh bien, je suis très fier que derrière cette réussite technologique française qui a pu enfin trouver le débouché commercial que nous souhaitions, Il y a derrière toutes les PME qui sont avec notre filière aéronautique, je pense à Safran, mais il y a aussi tous les salariés qui aujourd'hui peuvent être fiers finalement participer à ça. Comme je parle devant des chefs d'entreprise qui sont des gens sérieux, je pense qu'ils peuvent entendre cet argument. Donc si on veut sérieusement traiter le problème, moi je crois qu'il y a une manière plus intéressante de prendre les choses et de se dire que finalement, les conditions du développement, d'un développement économique créateur d'emplois dans la région, rejoignent en ce moment assez fortement les énormes besoins sociaux de cette région. Si la région peut jouer un rôle, elle ne va pas, j'ai cité le chiffre tout à l'heure, la région à elle seule, avec son budget, ne va pas répondre à l'ensemble des défis du développement économique de l'Île-de-France. Mais l'effet de levier des politiques publiques qu'elle peut initier peut être considérable. En matière de transport, en matière de logement, en matière de transition énergétique, en matière d'aide à la recherche et à l'innovation dans la région.
Et moi, je crois qu'on vous voit beaucoup plus pour cet argent que vous contribuez à donner à la région beaucoup plus de résultats. Alors moi, je vais dire les choses très clairement et très crûment. Je veux être un président entrepreneur et je veux être à la tête d'une région pour business. Je voudrais un conseil des chefs d'entreprise auprès du président de région pour lui donner des conseils, pas seulement des grandes entreprises, aussi des PME. Je veux évidemment que le président de région fasse, le VRP, la promotion des talents régionaux à l'étranger et à l'export. Il y a énormément de pays, et on les connaît tous ici, pour qui c'est important que les chefs d'entreprise viennent avec un politique.
En ce qui concerne l'action économique de la région et l'attractivité de la région de France, on peut faire énormément. Nous avons développé, nous, au Front National, le concept d'État stratège. Je développerai, en ce qui concerne la politique régionale, le concept de région stratège. À partir du moment où la région a cette responsabilité d'action économique, eh bien, je pense, après évidemment beaucoup de réflexions, qu'il faut aller véritablement jusqu'au bout, il faut aller beaucoup plus loin que ce qui n'est fait à l'heure actuelle. Et il faut que la région se mette véritablement au service des entrepreneurs. Et nous, à la région, nous devons vous aider.
Eh bien, moi, je parlerai essentiellement du financement de ces transports. Donc ça, c'est un constat, hein, et vous l'avez tous fait. Finalement, les transports, ils sont organisés d'abord et avant tout pour ramener les salariés à leur entreprise, au travail. Hein. Ils se sont développés comme ça, vous avez souligné le RERA, la Défense, ces dizaines, ces centaines de milliers de salariés qui, effectivement, se bousculent en 2 heures pour aller au travail. Vous envisagez le développement de ces transports sous cet angle également, hein, c'est-à-dire les besoins des entreprises. Eh bien, pour moi, la solution est simple. Puisque cela se fait au bénéfice des entreprises et pour répondre aux besoins des entreprises, c'est aux entreprises de payer en totalité ces transports publics. Voilà. D'ailleurs, il y a eu des choses très choquantes, en tout cas, moi je trouve très choquantes sur la fraude. Vous voyez, autant, on va mesurer tout ce qui nous sépare. Comme ça. Donc, la fraude. J'ai entendu Valérie Pécresse, hein, c'est le miracle, on va faire payer les fraudeurs. Mais j'ai bien vu que François Calfon était d'accord, hein, le Parti Socialiste avait trouvé 200 millions aussi comme ça. Bon, écoutez, pour moi, la fraude dans les transports, c'est pas ça. Pour moi, la fraude, et ça, c'est une fraude légale, c'est vrai, c'est justement que le patronat ne paye pas alors qu'il impose à ses ouvriers de faire des dizaines de kilomètres pour se rendre au travail. Et j'ai en tête le cas de la fermeture justement de l'usine d'Aulnay-sous-Bois, où on nous a expliqué qu'il n'y aurait pas de problème puisqu'il y aurait des reclassements à Poissy. Vous vous rendez compte ce que ça signifie en matière de transport pour les ouvriers? Des ouvriers aujourd'hui se lèvent à 3h30 du matin pour prendre l'équipe du matin, de 5h, oui, 5h du matin. Et certains, parce que vous imaginez bien l'état des transports à cette heure-là, eh bien, beaucoup sont obligés y compris de s'endetter, prendre un crédit pour rouler dans une vieille bagnole, qui passent leur journée à en produire, à en fabriquer, hein, mais ils n'ont pas suffisamment de salaire pour en s'en payer une qui roule bien. Eh bien, voilà, ils se saignent pour effectivement rejoindre leur chaîne de montage. C'est ça la réalité aujourd'hui de millions en fait d'ouvriers en Île-de-France. Hein, c'est ça la réalité. Et donc nous pensons que ça serait la moindre des choses que ce transport, que le coût de ce transport soit effectivement intégralement porté par le patronat. Et dans la mesure où, de toute façon, les ouvriers ne sont pas assez bien payés pour pouvoir se faire construire une maison ou acheter un logement aux abords de leur travail, dans la mesure où, en plus, on leur demande d'être flexible, de changer d'entreprise, d'être mobile, parce qu'il ne faut pas trop s'habituer, hein, donc il faut pouvoir bouger, etc., etc., eh bien, c'est de votre responsabilité de faire en sorte que ce soit possible, tout simplement. Ça m'inspire déjà une première réflexion, c'est que, en fait, vous demandez, hein, le représentant donc, du patronat, petit et grand, d'être aidé pour beaucoup de choses quand même. Hein. Vous demandez d'être aidé pour exporter, pour transporter les salariés, pour les amener donc voilà, pour innover, pour la recherche et maintenant pour la formation des ouvriers.
C'est pas nouveau la formation, c'est
essentiel. Non, mais justement, moi je pense que s'il s'agit de former des travailleurs pour vous et pour faire d'ailleurs une tâche qui vous va bien dans l'entreprise hein, où vous travaillez, bah, c'est à vous de le faire, hein. C'est à vous de prendre en charge. D'autant plus que vous le dites à longueur de journée, vous n'êtes pas marié avec vos travailleurs et vous êtes prêt à les licencier dès qu'il y a quelque chose qui tourne mal. Donc, voilà, donc c'est en quelque sorte un investissement à sens unique, on va dire.
C'est capital pour vous travailler, c'est son capital.
Alors, ouais, voilà, c'est cette discussion-là, effectivement, qui est le fond de l'affaire. Non, donc moi, je crois que sur l'apprentissage, c'est pareil. Je crois qu'aujourd'hui, tel d'ailleurs qu'il est défini, l'apprentissage, c'est quand même une sacrée aubaine pour les entreprises, effectivement. Parce que des fois, je me demande, vu les 1000 euros de prix par apprenti, vu le très faible salaire auquel ils sont payés les apprentis, je me demande si c'est pas l'apprenti qui finit par c'est pas l'apprenti hein, qui finalement paye. Voilà. Mais j'en profite aussi, puisque je suis à côté de vous, monsieur Tréhard. J'en profite aussi pour évoquer aussi un petit problème sur l'apprentissage. Vous savez qu'il y a eu une loi de François Rebsamen, il a initié une déréglementation de l'apprentissage, hein, puisque maintenant les jeunes apprentis vont pouvoir travailler en hauteur avec des machines-outils dangereuses. Et donc le Figaro l'a applaudi en expliquant, miracle, les apprentis pourront à nouveau monter sur les escabeaux. Eh bien, je tiens à rappeler qu'il y a un salarié tous les jours qui meurt sur le lieu de travail. Qu'il y en a un qui meurt sur le trajet domicile-travail. Et que dans le bâtiment, là où il y a justement beaucoup d'apprentis, il y a une chute toutes les 5 minutes. Une chute toutes les 5 minutes. Donc moi, je pense que c'est cette réglementation qui protégeait un peu les apprentis. Eh bien, c'était de la protection. Alors, je sais bien que c'est devenu à la mode maintenant. Dès qu'il y a une loi qui protège les salariés, de dire que c'est trop de contraintes, que c'est un carcan, que tout ça, ça gêne beaucoup les entreprises, eh bien, moi, je pense que tout ça, ce sont des protections. Et voilà, j'en profite pour dire que je me oppose à toute cette déréglementation, y compris qui touche l'apprentissage aujourd'hui.
Je dois vous dire, madame, que vous n'avez rien compris aux entreprises. Les entreprises, c'est pas la lutte des classes, c'est fini ça. C'est ça le problème aujourd'hui. On n'en veut plus parce qu'il n'y a pas de l'équipe des enfants. Les Français s'en vont pourquoi? Parce qu'on les emmerde avec les impôts. Et pour que les étrangers viennent, ben, il faut supprimer des impôts. Non pas les impôts des pauvres, mais les impôts des riches. Parce que c'est eux qui font le boulot.
Notre région, notre pays, sans être malheureux.
Nathalie Arthaud.
Vous voyez, si des candidats de Debout la République ont été sanctionnés du fait de leur engagement politique, vous imaginez les candidats à lutte ouvrière. Je vous laisse réfléchir à ça. Mais sur nos listes, évidemment, nous avons des salariés, des chômeurs, des ouvriers, beaucoup. Vous regarderez. Simplement, je vais réagir sur les scores électoraux. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à contre-courant dans cette salle. C'était bon, quand même évident. Mais vous savez, méfiez-vous parce que les colères, les réactions du monde du travail, elles sont indépendantes des circonstances électorales. Et n'en déplaise à Monsieur Dassault qui a repeint le monde en rose, la lutte de classe, c'est du vécu. Voilà. Et je crois que beaucoup d'ouvriers, quand ils voient leur salaire bloqué et qu'ils voient leur PDG justement avoir 100 fois le SMIC ou des parachutes dorés, ben, je peux vous dire que la colère, elle s'accumule. C'est pas, non, vous avez tort de prendre ça à la légère. La colère, elle s'accumule, elle s'exprime peut-être pas. Ben, moi, je milite pour qu'un jour, elle éclate.
Merci.